Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio Immo.
Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Mac de l'Immo, le rendez-vous info de Radio Immo, c'est tous les vendredis de 7h à 9h, en direct évidemment. Nous sommes le vendredi 14 janvier 2022 et il fait très froid sur la capitale et sur l'ensemble de la France, je pense. Je ne sais pas si elle sera d'accord avec moi, Fabienne Lissac qui est avec moi en studio ce matin. Bonjour Fabienne.
Effectivement, j'ai eu du mal à sortir du lit très chaud, mais... c'est pour l'émission, le Mac de l'Immo avec vous, donc ça, c'est quand même, ça se tente.
C'est pour la bonne cause, et puis c'est aussi pour accueillir notre grand témoin. On va vous dévoiler son identité dans quelques secondes. Le temps, eh bien, de vous annoncer le programme de cette première heure, puisque nous allons parcourir des sujets passionnants et qui vous intéressent. Si vous êtes professionnel de l'immobilier, futur acquéreur ou bien déjà propriétaire, il est habituel de prendre des résolutions en début d'année. Eh bien, on va parler des résolutions des Français en matière d'immobilier. Tout ça, c'est pour la première heure, avant d'accueillir Fabienne, notre grand témoin du jour.
Oui, il s'agit de Boris Capel. Il est le président de Saville France, qui est un grand acteur de l'immobilier, que l'on parle de conseil, d'investissement. Il est à peu près présent sur tous les métiers. Il va nous expliquer cela. Et puis, vous le savez, le Mac de l'Immo, c'est une bonne opportunité pour découvrir ce qui se cache derrière le manager. On fera le portrait avec des gens qui le connaissent très très bien et qui se sont confiés à nous.
On l'accueillera un petit peu avant 8h, comme c'est la tradition. En attendant, c'est parti pour le Mag de l'Immo.
Le Mag de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
En début d'année, il est de bon ton de prendre des résolutions. C'est vrai également dans le secteur immobilier. Alors, quelles sont les bonnes résolutions immobilières des Français pour 2022? Eh bien, il faut savoir que c'est une chronique de Fabrice Coustet, parce que pour tous les Français qui ne sont pas à l'heure actuelle propriétaires, pouvoir un jour investir dans la pierre, c'est bel et bien un rêve. Alors, à quel sacrifice sont-ils prêts pour le réaliser? C'est une chronique de Fabrice Coustet.
Avec le début de cette nouvelle année, Brix.co, la plateforme de financement participatif spécialisée en immobilier, a voulu savoir quels étaient les vœux et les rêves immobiliers des Français en menant une enquête auprès de plus de 8200 personnes n'ayant pas encore d'investissement dans un bien immobilier. Premier enseignement, pour tous les Français qui ne sont pas encore propriétaires, pouvoir un jour investir dans la pierre est bel et bien un rêve. En effet, plus de 8 personnes sur 10 déclarent souhaiter un jour investir dans l'immobilier. A noter que 19% pensent ne jamais pouvoir réaliser ce rêve et seulement 2% n'y sont pas sensibles. On le sait, le début d'année est propice aux bonnes résolutions. Pour 78% des Français, il y en a une qui est en haut de liste, faire des économies. Plus de 32% envisagent de mettre entre 200 et 300 euros de côté chaque mois et 25% envisagent d'épargner entre 100 et 200 euros. Plus d'épargne, mais donc moins de consommation, alors quels sont les budgets qui seront sacrifiés? Voici les sacrifices auxquels sont prêts les Français. Les deux tiers sont prêts à baisser leur budget vacances, la moitié sont prêts à rogner leur budget transport et 52% vont taper dans leur budget cadeau. Le sondage pointe également que les clichés ont la vie dure. Pour pouvoir espérer investir dans un bien immobilier, les Français pensent qu'il est nécessaire d'avoir un apport financier conséquent. Ainsi, plus de 44% déclarent qu'il faut avoir entre 20 000 et 50 000 euros et un tiers pense qu'il est nécessaire d'avoir plutôt entre 50 000 et 70 000 euros. Or, Cédric O'Neill, le fondateur et patron de Brix.co, observe que moins de 10% des Français savent qu'il est possible d'investir de petits montants en immobilier, comme l'immobilier participatif proposé par sa plateforme. Enfin, le sondage se conclut par les régions dans lesquelles les Français rêvent d'investir. Trois régions ont clairement la cote auprès des Français et se détachent. 25% en Auvergne-Rhône-Alpes, 22% en Occitanie-Midi-Pyrénées. Mais c'est bien sûr la Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est sur la plus haute marche du podium. Plus d'un quart des Français rêvent d'y investir ou d'y habiter.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion de Système, promis et bien ici.
De retour dans le Mac de l'Immo sur Radio Immo, on va maintenant écouter Jean-Marc Torollion, le président de l'AFNAIM, qui a évoqué les résultats de la récente analyse du marché immobilier de l'AFNAIM pour l'année 2021 et des perspectives évidemment pour l'année 2022, mais aussi les résultats exclusifs du sondage IFOP pour l'AFNAIM sur le rapport des jeunes au logement, une interview réalisée par Kenza Bria. Bonjour Jean-Marc Torollion.
Bonjour.
Vous êtes président de la FNAIM, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions suite à la conférence de presse que vous avez présentée ce matin. D'ailleurs, dans ce cadre, vous nous avez donné des résultats inédits de l'analyse du marché pour 2021, mais surtout les résultats d'un sondage IFOP-FNAIM sur le rapport des jeunes au logement. Alors d'abord, avant d'accéder peut-être aux résultats les plus emblématiques justement de ce sondage, est-ce que vous pouvez nous confirmer que finalement le secteur de l'immobilier a traversé la crise ces deux dernières années avec grande résilience?
Oh ben, écoutez, c'est étonnant et ça a d'ailleurs déjoué, soyons clairs, toutes nos perspectives. Nous avons vraisemblablement battre un record en 2021, c'est même sûr, avec 1 200 000 transactions. Il faut se souvenir que le précédent record de 2019 était de 1 067 000 transactions. Mm-hmm. Donc c'est significatif et c'est significatif dans tous les territoires, avec dans certains départements, y compris ruraux, des hausses d'activité de 30%. La deuxième caractéristique, c'est les prix, évidemment, parce que les prix sont en hausse partout sauf à Paris,
oui.
Avec une hausse de près de 7,2% France entière. Il faut toutefois le corriger de l'inflation. Et quand on le corrige de l'inflation, on s'aperçoit que l'augmentation nette est malgré tout inférieure à l'année dernière. La deuxième caractéristique de cette hausse, c'est qu'elle est plus importante pour les maisons que pour les appartements pour la deuxième année consécutive. Mais la grande leçon que l'on doit tirer de cette activité, de cette évolution des prix, c'est que, c'est la leçon que je tire d'ailleurs de ce quinquennat,
oui.
On est arrivé avec un discours sur la métropolisation et l'hypermétropolisation, et on finit sur un marché qui vote démétropolisation, parce que ce que nous avons constaté, évidemment, c'est que la ruralité, les villes moyennes, les 100 villes moyennes de France, eh bien, c'est là où la demande s'est le plus exprimée et c'est là où les prix ont été, la hausse des prix a été beaucoup plus importante. Nous avons démontré que sur les 18 mois qui précédaient le confinement, la hausse des prix pour les maisons était en moyenne de 6,2%. Sur les 18 mois qui ont suivi la fin du confinement, la hausse était de 13%. Et ça se vérifie dans toutes les communes rurales et dans les villes moyennes.
Très bien.
À côté de ça, Paris, qui se singularise, parce que à Paris, il n'y a pas de hausse pour l'instant, 0,9% sur un an. Et en fait, depuis 18 mois, il n'y a quasiment pas de hausse, alors qu'avant le premier confinement, sur les 18 mois qui précédaient, la hausse était de plus de 12%. Donc voilà, la fin, peut-être, d'une métropolisation.
D'accord, mais quand on dit que le marché est en surchauffe, est-ce que pour vous c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ?
Alors la surchauffe, elle est, c'est une bonne nouvelle au sens de l'activité économique, c'est une bonne nouvelle également parce que les Français ont confiance dans l'immobilier. L'expression de la surchauffe, c'est l'expression d'une demande. Cette demande, elle est réelle avec 1 200 000 transactions. Elle s'est exprimée sur tous les segments, résidence principale en même temps, primo-accédant et secondo-accédant, investisseurs et résidence secondaire. Donc quand on dit surchauffe, c'est parce qu'on se dit attention toutefois à ce que cette hausse des prix ne se décorrèle pas du pouvoir d'achat des Français, mais
oui.
On a démontré là encore que par l'effet des revenus, il y avait un pouvoir d'achat qui était financé, mais évidemment ça tient aussi au maintien des taux bas en 2022. Et puis la surchauffe, c'est aussi l'endettement. Et on voit bien un discours ambiant comme quoi l'endettement commencerait à être inquiétant sur ce secteur d'immobilier. Il y a autre chose, c'est que la France ne se singularise pas. On a démontré que l'embellie sur l'immobilier, si je puis dire, elle était européenne, à quelques exceptions près. Elle était mondiale, à quelques exceptions près. Donc, l'actif immobilier aujourd'hui, il est demandé et il est globalement dynamique. Certains diront qu'il peut y avoir une bulle à cause peut-être d'un excès de liquidité. Nous ne faisons pas ce constat-là aujourd'hui parce qu'on n'est pas encore à des niveaux qui sont inatteignables et on a connu des prix supérieurs à la fin 2020.
Il y a eu également ce matin une présentation des résultats liés au sondage IFOP-FNAIM sur le rapport des jeunes au logement. Alors d'abord, comment est-ce que les jeunes choisissent clairement leur lieu de vie aujourd'hui ? Est-ce que vous avez la sensation que le Covid, le télétravail a changé la donne de ce côté-là ?
Il y a deux aspects dans ce sondage. Il y a comment j'ai choisi mon logement actuel. Quand je suis notamment locataire, 14% sont propriétaires, on s'aperçoit que là, c'est la proximité, le qualité-prix, puis je prends ce que je trouve en fonction de mes moyens. Mais ce qui est très intéressant, c'est comment les jeunes se projettent dans leur futur logement. Et quels sont à ce moment-là les critères qu'ils mettent en avant. Et ce qui nous a surpris, c'est que le critère qui est mis en avant et qui est déterminant pour 37% d'entre eux et qui est très important globalement pour 96% d'entre eux, c'est la sécurité.
Et oui.
Et le deuxième critère, c'est le cadre de vie l'accès à la nature, le calme. Et le troisième critère, c'est la proximité malgré tout de certaines commodités et de services publics. Donc, est-ce que... voilà. Et enfin, l'aspiration profonde, pour 71%, c'est la maison individuelle. C'est pas la ville. Donc, où est-ce qu'ils veulent vivre, ces jeunes? Ils veulent vivre donc dans une maison individuelle, ils veulent de la sécurité, la nature accessible et des services publics. Et à 44%, ils veulent vivre en périurbain, à 28% en milieu rural, et seulement 28%, du coup, souhaitent vivre dans les villes.
Donc clairement,
donc
clairement tout ça est totalement cohérent, j'ai envie de vous dire, entre les jeunes et les moins jeunes.
Oui, c'est cohérent, mais finalement les jeunes, et 8 sur 10 veulent devenir propriétaires, hein, et 85% d'entre eux considèrent que c'est économiquement le bon choix. Ils sont le reflet de ce que souhaitent globalement les Français, et ils sont le reflet aussi de ce réflexe atavique qu'ont les Français vis-à-vis de la propriété privée. Il y a un élément important aussi, c'est qu'est-ce qui est plus écologique, la maison ou l'appartement? Eh bien, en réalité, pour 48%, il n'y a pas de différence. Il est aussi écologique d'acheter une maison qu'un appartement. Mais pour 31%, en revanche, c'est la maison qui est la plus écologique. Et donc, ils ne sont que 21% à penser que c'est l'appartement le plus écologique. En même temps, quand on veut habiter une maison, ça se conçoit. Mais voyez, le débat écologique sur la nature du bien, il n'est pas finalement tranché, c'est plutôt une neutralité.
Très bien. Merci beaucoup, Jean-Marc Torollion, d'avoir répondu à nos questions. Président de la FNAIM.
Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
Découvrez Prévisite, le leader français des solutions de création de contenu enrichi pour les professionnels de l'immobilier. Avec nos applications, vous pourrez en toute autonomie créer vos visites virtuelles interactives, vos vidéos ou encore vos photos HDR comme un véritable professionnel. Vous pourrez ainsi mettre en valeur vos annonces, faire visiter vos biens à distance et ainsi gagner plus de clients. Prévisite propose des solutions simples et efficaces pour apporter une réelle valeur ajoutée à votre stratégie de communication digitale. Rendez-vous sur notre site www.prévisite.fr pour plus d'informations. Prévisite est une marque du groupe La Boîte Immo. ThyssenKrupp Elevator et maintenant TK Elevator. Entreprise majeure sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Répartis sur toute la France, les techniciens expérimentés TK Elevator interviennent pour maintenir la mobilité des usagers en toute sécurité. Engagés dans le développement des bâtiments intelligents, TK Elevator propose des produits et services innovants comme le service de maintenance prédictive MAX. La mobilité urbaine ne connaît plus de limites. TK Elevator, move beyond. www.tkelevator.fr.
Le Mac de l'Immo continue en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Depuis le début de l'année, il est obligatoire d'afficher le DPE sur des annonces immobilières. Pour les professionnels, mais aussi maintenant pour les particuliers. C'est un sujet de Vincent Favéro.
C'est valable pour tout le monde et tout le temps. C'est la règle simple qu'il faut retenir pour l'affichage du DPE, le diagnostic de performance énergétique, est désormais affiché obligatoirement sur les annonces de vente. Si vous êtes professionnel, vous en avez l'habitude, mais si vous êtes particulier, sachez que c'est une nouveauté de ce début d'année. Depuis le 1er janvier, la loi impose à chaque vendeur l'affichage de façon claire du DPE du logement en vente, sous peine de recevoir une amende de 3 000 €. Pour les professionnels, l'amende grimpe à 15 000 €. Cette nouveauté 2022 va s'intégrer comme une formalité car le DPE fait partie des diagnostics à réaliser avant de mettre un logement en vente. Par conséquent, tout propriétaire qui vend un bien doit l'avoir ou alors va vite se rendre compte qu'il doit le faire réaliser par un diagnostiqueur. Ne restera ensuite qu'à l'intégrer sur les sites d'annonce pour ne pas risquer l'amende. Deux autres normes viennent s'appliquer au diagnostic de performance énergétique en ce début d'année. Ils sont maintenant opposables par le nouvel occupant occupants du logement et certains DPE ont aussi vu leur durée de validité réduite. Et si on commence l'année par vous parler de ce diagnostic, c'est qu'il n'a pas fini de faire causer. La loi Climat, votée l'été dernier, annonce qu'à partir du 1er janvier 2025, les 600 000 logements classés G sur le territoire français seront considérés comme indécents et donc interdits à la location. Le même sort va s'appliquer en 2028 aux 1,2 million de logements classés F. Mais avant ça, dès le 25 août 2022, les loyers des logements classés F et G ne pourront plus être augmentés. Conséquence pour les propriétaires, une injonction à devoir faire des travaux de rénovation énergétique ou alors à vendre. Et c'est là que le DPE fait monter sur le marché de la vente bon nombre de logements classés F ou G. Et nous n'avons donc pas fini d'entendre parler du DPE.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
De retour dans ce Mac de l'Immo, Yann Géhanno, le président du réseau d'agences immobilières La Forêt, est revenu sur une année 2021 exceptionnelle pour le marché immobilier en apportant un éclairage sur les tendances post-confinement. Le marché de l'immobilier affiche une santé plus que robuste pendant la crise sanitaire. Les envies de changement des particuliers, qui lassent des restrictions et d'une atmosphère anxiogène, ont cédé à l'appel de la chlorophylle et changé de ville pour quitter les grandes métropoles. Cette tendance s'est confirmée en 2021 avec un record de transactions, comme nous l'explique Yann Géhanno, le président de La Forêt, au micro de Fabienne Lissac.
Alors c'est vrai que fin 2020, on s'attendait à une année 2021 plutôt classique, dynamique certes, mais classique, et on n'anticipait pas de tels volumes de transactions, puisque pour l'instant, 2021 devient et prend la place de millésime du siècle, une année qui bat des records de transactions avec un marché qui est porté essentiellement par deux piliers, un duo gagnant, les maisons d'un côté pour lesquelles la demande ne cesse de progresser et les transactions progressent également, et puis les régions également qui explosent les compteurs, plus 21% de ventes en 2021 par rapport à 2020 dans les régions.
Si on revient sur les facteurs qui expliquent cela, bon, bien sûr, il y a l'envie de certains d'aller au vert, vivre avec plus d'espace. Les conditions financières, elles jouent pour beaucoup, les conditions favorables ?
Oui, alors il y a cet appel de La Forêt, on en a beaucoup parlé sur durant les mois qui se sont écoulés, mais c'est pas la seule chose. En effet, des taux d'intérêt qui sont historiquement bas, un taux de chômage aussi qui est très bas et qui continue de baisser, et puis une croissance économique du pays orientée à la hausse. Donc tout ça, ça incite à l'acquisition, ça incite à l'investissement immobilier.
L'immobilier en tant que valeur refuge, c'est un statut qu'on ne peut plus lui contester.
Non, ça fait longtemps que nos concitoyens ont compris que l'immobilier, sur du moyen terme, sur du long terme, était aujourd'hui imbattable. C'est encore plus le cas face à des places boursières qui sont extrêmement volatiles depuis 2 ou 3 ans, face à des monnaies virtuelles nouvelles qui arrivent, qui gagnent beaucoup sur une journée et qui peuvent perdre le double le lendemain. Donc les Français sont très attachés à la pierre.
Donc je donne quelques chiffres quand même. Une demande qui a atteint plus 18% au niveau national par rapport à 2020. Et Paris, qui a l'habitude de caracoler, eh bien là, elle commence à perdre du terrain par rapport à d'autres villes moyennes. C'est ça qu'il faut comprendre ?
Par rapport à toute la France, puisque si on regarde les prix, l'année 2021 clôture sur une croissance au national de 6,1% des prix. On est à plus de 3300 euros du mètre carré, record absolu de tous les temps. La pierre se transforme progressivement en pierre précieuse, sauf à Paris, où les prix ont dévissé, ont baissé, en tout cas d'1,4% sur l'année 2021. Paris qui perd sa population depuis de nombreuses années. Et puis surtout, une capitale qui a vu la vie redémarrer un peu plus après les autres. Les sièges sociaux sont restés fermés assez longtemps. Les Parisiens dans leur résidence secondaire et ou dans leur famille en région. Donc le marché qui a vraiment repris sur le second semestre de l'année 2021.
Alors, vous employez ce terme intéressant, un marché en trompe-l'œil. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Mais derrière les records, derrière le record de transactions, derrière les prix qui augmentent très fortement, il y a justement une partie des Français qui ont de plus en plus de difficultés à accéder au logement, sur la partie acquisition, évidemment, et qui sont contraints de revoir leurs projets, de réduire leurs projets, de reculer ou de renoncer tout simplement à leur projet immobilier. Et ça, c'est une mauvaise chose. Et puis, ce trompe-l'œil est aussi marqué par un niveau de stock qui est extrêmement bas. Le nombre de biens disponibles à la vente n'a jamais été aussi bas. Il régresse encore plus fortement sur les maisons que sur les appartements dû à cet engouement récent d'il y a 2 ans, notamment très fort, et un marché du neuf en amont qui ne joue plus son rôle, qui n'alimente plus le marché de l'ancien. Donc des perspectives de laisser un accès, de donner un accès à chaque Français au logement qui s'assombrisse pour les années à venir.
Le Mac de l'Immo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
On a dévalé la pente en moins de 2. On a fait comme si on savait pas. On a évité les regards ambigus. On a fait comme si on pouvait pas. On a dessiné la zone, évité les roses. Repoussé la faune, compliqué les choses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi. Souviens-toi des années 90, quand dans la cour, tous les jours, j'étais ton roi. Tu as bien grandi et tu me brusques. Et parfois même, tu te loves dans mes bras. Mais jamais, jamais, jamais plus. Car je le sais, je suis l'homme qu'on ne voit pas. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Tu as décidé des règles en fin de jeu. J'étais teenager amoureuse. Puis le temps s'est écoulé en moins de 2. Fini les années délicieuses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi. Souviens-toi des années 90, quand dans la cour tous les jours t'étais moi. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Plus tu t'approches et plus j'appuie sur pause. Et seul tous les soirs.
Mais seul tous les soirs.
Et seul tous les soirs, je reste dans le noir.
Et seul tous les soirs, je reste dans le noir.
Et seul tous les soirs, je reste dans le noir.
Et seul tous les soirs, je reste dans le noir.
Je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je serai là pour toujours ton épaule. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Plus tu t'approches et plus j'appuie sur pause.
Et voilà, c'était le groupe Thérapie Taxi. Et là, ce groupe s'est scindé. C'est la fin de ce groupe qui, certes, avait des mots un petit peu salaces, mais de très, très bonnes mélodies. On retrouve le fil de notre émission Le Mac de l'Immo dans un instant.
Le Mac de l'Immo continue en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Déjà partenaire de l'opération Pièces Jaunes, l'an passé, Foncia va à nouveau participer à la collecte des pièces jaunes au profit de la Fondation des Hôpitaux. Objectif, faire construire une maison de proches. Explication de texte avec Johanna Zilberstein.
C'est reparti pour Foncia. Déjà partenaire de l'opération Pièces Jaunes l'an passé, l'enseigne immobilière va à nouveau participer à la collecte au profit de la Fondation des Hôpitaux. Dès le 12 janvier, vous pourrez donc non seulement trouver les fameuses petites tirelires dans chacune des 500 agences en France, mais également donner de manière dématérialisée grâce à des affiches avec QR code. Une action accompagnée de beaux espoirs. En 2021, la donation de Foncia avait permis la construction d'une maison des proches au sein de l'Institut du cancer de Montpellier. Cette année, Foncia veut permettre la construction d'une maison d'accueil hospitalière au sein de l'hôpital de la Croix-Rousse de Lyon. Un projet qui verra le jour grâce à la donation que fera le groupe en plus de sa mobilisation sur le terrain. Pour Philippe Salle, président d'Emeria, dont Foncia est une filiale, ce partenariat veut contribuer à la promotion et au succès de l'opération Pièce Jaune. Alors qu'attendez-vous pour sortir votre petite monnaie?
Le Mac de l'Imo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Y a-t-il un risque de bulle immobilière? C'est une question qu'on peut se poser alors que les prix flambent, plus 7,2% pour les prix au mètre carré en France selon le bilan de la FNAIM pour 2021. Les experts sont divisés quant à l'éclatement possible d'une bulle. Voici l'analyse de Christian Parizeau, conseiller économique chez Aurel BGC. Bonjour Christian Parizeau, vous êtes conseiller économique chez Aurel BGC et on va se poser la question d'une bulle immobilière. Est-ce qu'il y en a une? En tout cas, quand on regarde les chiffres publiés par la FNAIM, on voit une hausse des prix sur 2021 de 7%. Alors, est-ce que c'est un petit peu excessif? C'est justifié cette hausse des prix en France?
Alors, quand on parle de bulle, surtout en théorie financière, c'est un écart du prix de marché par rapport à la valeur fondamentale sous-jacent. Alors là, on pourrait dire, est-ce qu'on paye aujourd'hui très cher les biens immobiliers par rapport à leur valeur fondamentale? Alors le gros problème quand on fait des estimations pour estimer cette valeur fondamentale, il y a un paramètre qui est essentiel dans le prix de l'immobilier, c'est le paramètre taux d'intérêt. C'est-à-dire que ce paramètre-là, il est déterminant dans la valorisation des biens immobiliers. Alors le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a certes une hausse des prix qui paraît forte, délirante, hein, notamment une hausse des prix qui est beaucoup plus forte parfois dans de nombreux pays du monde que la progression du revenu disponible des ménages. Or, normalement, on devrait avoir les prix immobiliers qui fluctuent en fonction quand même de la capacité d'achat des ménages, donc de leurs revenus disponibles qu'ils peuvent aujourd'hui, sur lequel ils peuvent baser un emprunt. Or, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'on a eu une hausse des prix beaucoup plus supérieure à cette progression du revenu des ménages. Donc, est-ce que c'est une bulle? Bah oui, mais dans le même temps, on a eu un effondrement des taux d'intérêt, en grande partie lié aux politiques monétaires qu'ont menées les grandes banques centrales. Et donc, finalement, si on prend un petit peu ce paramètre taux d'intérêt, je vais vous dire qu'il n'y a pas de bulle aujourd'hui sur le marché immobilier. Le seul problème, c'est que si on regarde du côté des taux d'intérêt, là, on s'aperçoit que les taux d'intérêt sont particulièrement bas parce que on a eu des injections de liquidités, on a eu une intervention des banques centrales qui ont fait tirer vers le bas les taux d'intérêt. Donc le problème, c'est pas est-ce qu'il y a une bulle sur le marché immobilier, mais est-ce qu'il y a une bulle sur les taux d'intérêt, parce que aujourd'hui, les banquiers centraux ont artificiellement fait baisser les taux d'intérêt à un niveau très très bas. Ce qui veut dire aussi que le jour où ils retireront ces aides monétaires, le jour où les taux d'intérêt sont appelés à se normaliser, eh ben, mécaniquement, ça va peser sur la valorisation du marché immobilier. Et donc, finalement, on peut se dire que c'est quand même un marché qui est cher, mais qui est fragile, parce qu'on a cette variable taux d'intérêt. Si vous êtes dans l'anticipation que les taux d'intérêt vont beaucoup remonter dans les prochaines années, prochains mois, eh ben, on sait que déjà, on aura un impact particulièrement fort sur la valorisation de ce marché. Donc, la question n'est pas est-ce qu'il y a une bulle sur l'immobilier, mais est-ce qu'il y a une bulle finalement sur les taux d'intérêt? C'est plutôt ça, à mon avis, la question aujourd'hui qu'on peut se poser face à cette hausse des prix de l'immobilier qu'on a observée sur les dernières années.
Certains disent qu'on observe une bulle surtout lorsqu'elle a éclaté.
Oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que c'est vrai que on peut toujours justifier des niveaux de valorisation, on peut toujours justifier finalement que c'est cher, hein, et il y a des éléments fondamentaux, hein, aussi dans cette hausse des prix immobiliers, notamment des changements de comportement des ménages qui ont, suite à ce Covid, ont décidé d'acheter peut-être des maisons dans des endroits différents. On a aussi un problème, alors si on prend le cas particulier de la France, un problème d'offres, hein, et de manque d'offres par rapport à la demande. Donc il y a des éléments fondamentaux qui justifient pleinement cette hausse de l'immobilier, parce que derrière cette hausse des prix, ça se traduit quand même par une demande qui est là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que le niveau des prix reflète complètement la demande? Oui, il n'y a pas des aspects spéculatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des promoteurs immobiliers qui spéculent comme on a pu voir en Chine, hein. On a vraiment une spéculation qui est là, où on achète plus le bien immobilier, non pas pour l'habiter, mais pour en vue d'un gain en capital. Donc il n'y a pas ces phénomènes-là aujourd'hui sur le marché immobilier. Par contre, on sent qu'il y a quand même un pouvoir d'achat des ménages qui a été stimulé par des taux d'intérêt très bas. Donc ce qui veut dire que Non, il n'y a pas une bulle et si elle éclatait, à mon avis, elle ne va pas éclater toute seule. C'est pas l'immobilier qui va avoir une bulle qui va éclater toute seule et on va voir qu'il y a eu des excès au niveau des promoteurs immobiliers, au niveau de la spéculation. On est très très loin de ce qu'on a observé quand on parlait de bulle derrière. Mais par contre, aujourd'hui, ce qui est la principale crainte, c'est plutôt si les taux remontent et c'est plutôt une fragilité du marché immobilier parce qu'on voit que derrière, la capacité des ménages n'a pas augmenté aussi rapidement que la hausse des prix. Donc la hausse des prix a été déconnectée de finalement une capacité d'achat des ménages, du pouvoir d'achat des ménages. Donc c'est ça qui fait craindre que finalement on pourrait avoir un phénomène de repli, mais qui sera forcément limité parce que derrière, encore une fois, c'est pas une bulle du marché, c'est plus finalement un effet taux qui a joué et qui explique ce mouvement.
Très brièvement, si on regarde ce qui se passe à l'échelle internationale, ça relativise, non, la hausse perçue en France ?
Oui, très clairement, on est sur des hausses de prix très impressionnantes. Alors, on pense peut-être là, le marché immobilier le plus à risque aujourd'hui dans le monde, c'est la Chine, hein, où il y a eu vraiment de la spéculation, il y a eu des excès, et on voit que quand le gouvernement chinois a voulu un petit peu réguler ça, ça s'est traduit par des faillites en cascade de promoteurs immobiliers. Donc ça montre bien qu'il y a eu quand même beaucoup d'excès, mais c'est aussi parce que en Chine, l'immobilier a été utilisé comme support d'épargne de cette classe moyenne. Aux États-Unis, ça reste très fort, très très important aussi, hein, mais je pense qu'on est dans le même cas qu'à peu près en France ou en Europe, hein. On a un effet taux qui a beaucoup joué et on a une demande des ménages qui a été particulièrement forte. Mais encore une fois, on est très très loin, même aux États-Unis, hein, de ce qu'on avait observé lors des subprimes, parce qu'on n'avait vraiment pas eu toute cette spéculation autour de l'immobilier, hein. Aujourd'hui, la spéculation, elle n'est pas sur les prix immobiliers.
Merci beaucoup, Christian Parizeau, pour cette analyse. Vous êtes conseiller économique chez Aurel BGC. Au revoir.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Plusieurs facteurs militent pour le développement du viager. D'une part, l'allongement de la durée de la vie, avec le risque de dépendance, qui exige de financer ou des aides à domicile ou des institutions coûteuses. Et d'autre part, les faibles montants des retraites. Enfin, le souhait d'aider ses enfants et de régler sa succession de son vivant. Toutes les explications avec vous, Fabienne Lissac.
Le marché du viager, qui était relativement peu développé, puisqu'il ne portait que sur 5 000 à 8 000 ventes par an, suscite ces dernières années un regain d'intérêt. Les particuliers et les fonds d'investissement l'ont intégré dans leur panoplie de choix d'investissement. Il devient un véhicule de placement et d'épargne à part entière. Il devient un placement pour les acheteurs, un moyen de répondre aux besoins financiers de vendeurs souvent âgé. Alors rappelons le principe du viager. Il faut savoir que la propriété d'un bien immobilier se compose de trois droits. Le droit de l'utiliser, le droit de le louer et d'en percevoir le loyer, le droit d'en disposer, c'est-à-dire le vendre ou le transmettre. Nommés respectivement usus, fructus et abusus, ces droits sont généralement réunis entre les mains du même propriétaire, mais ils peuvent aussi être répartis entre plusieurs personnes dans le cas d'un démembrement de propriété. L'achat en viager se situe dans ce cadre. L'acheteur acquiert le droit de disposer du bien, c'est la nue propriété, alors que le vendeur conserve le droit de l'utiliser et de le louer, c'est l'usufruit. Alors pourquoi le viager se développe-t-il ? Parce que plusieurs paramètres entrent en jeu. D'ici 2030, le nombre de personnes âgées dépendantes pourrait doubler. La majorité des seniors souhaitent demeurer chez elles après 70 ans. Donc d'une part, il y a l'allongement de la durée de la vie, avec le risque de dépendance qui exige de financer des aides à domicile ou des institutions coûteuses. D'autre part, les montants des retraites qui baissent. Le souhait d'aider ses enfants lorsqu'ils en ont besoin et de régulariser sa succession de son vivant. Le marché du viager se développe aussi car c'est un moyen de contourner les contraintes du système bancaire, d'accéder plus facilement à la propriété. Si l'on est intermittent du spectacle, auto-entrepreneur, on a parfois du mal à obtenir un crédit immobilier. Eh bien, c'est une manière de court-circuiter les garanties exigées par les banques. Alors que les conditions se sont durcies dernièrement, eh bien, les banques acceptent des dossiers sans apport personnel. Mais le critère de revenu stable, attention, est toujours maintenu et peut constituer un véritable verrou. De ce fait, les auto-entrepreneurs ont trouvé dans le viager un moyen d'accéder à la propriété. Quelles sont les modalités ? C'est une vente immobilière dont le paiement du prix prend la forme d'un versement immédiat d'un capital, appelé bouquet, et d'une rente servie au vendeur jusqu'à son décès. Mais attention, tout est modulable, il y a plusieurs possibilités. Une fois estimé le prix de marché du logement, l'expert pratique un abattement correspondant à son occupation à venir, elle-même variable selon l'espérance de vie du ou des occupants, et se réfère pour cela à des tables de mortalité fixées en fonction de l'âge, du sexe et du fait d'être seul ou en couple. Le viager a souvent dissuadé les investisseurs car il ressemble à un pari sur la mort, mais les sociétés de gestion ont innové pour mettre au point de nouvelles solutions d'investissement, notamment des fonds viagers. Il s'agit de financer sans attendre le maintien à domicile, tout en augmentant le niveau des retraites et en injectant de nouvelles liquidités dans l'économie, performante en termes de rendement. Elle séduit de plus en plus de seniors, d'investisseurs privés, mais aussi des particuliers.
Le Mac de l'Imo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
Votre projet immobilier, vous y pensez même le week-end, n'est-ce pas? Il est passionnant, unique et il mérite la plus grande attention. Chez Arkéa Banque, entreprise et institutionnelle, nous connaissons tous les maillons de la chaîne de l'immobilier. Vous êtes collectivité locale, aménageur, promoteur, bailleur HLM, foncière ou investisseur privé? Nous vous apportons, en plus du financement, un éclairage et des contacts utiles pour vous accompagner tout au long du programme. Vers un immobilier plus durable. Avec Arkéa Banque, entreprise et institutionnelle.
Le Mac de l'Imo continue en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Avec la mise en place du télétravail due à la pandémie, l'usage des bureaux est évidemment revisité. Le taux de vacances augmente dans certaines zones, les immeubles se reconfigurent. Alors le flex-office sera-t-il l'avenir du bureau? La réponse de Frédéric Seldran. Il est directeur général du pôle promotion et services de GA Smart Building et c'est au micro de Fabienne Lissac.
Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Assez vite, les gens ont voulu revenir parce qu'ils étaient en manque de relations sociales. Vous vous souvenez, on faisait même des apéro Teams, enfin des trucs complètement virtuels qui marchaient pas d'ailleurs.
C'est amusant la première fois.
C'est amusant. Et ensuite, les gens donc ont voulu revenir au bureau. Et puis il y a eu, je trouve moi, ce qu'on a observé dans nos bureaux, une espèce de déception parce que finalement, on est arrivé dans des bureaux qui n'étaient pas conçus pour, puisque il suffisait qu'une personne manque et même en étant au bureau, c'était plus du présentiel, mais c'était quand même du Teams. Et on n'avait pas les bureaux constitués correctement pour pouvoir s'isoler, pour pouvoir ne pas gêner les autres pendant ces visioconférences, etc.
Donc dans les bureaux modernes, c'est des bureaux qui sont près des habitations. Racontez-nous.
Alors aujourd'hui, comment on fait pour faire venir les gens? Les gens ont envie de revenir, mais finalement, quand ils reviennent, il faut que tout soit parfait, sinon ils ont envie de repartir. Parce que finalement, s'ils ont une...
C'est comment des bureaux parfaits?
Ouais, alors, des bureaux parfaits sont des bureaux qui donnent envie aujourd'hui. Et quand on regarde aujourd'hui comment on va concevoir les bureaux de demain, moi j'ai envie de dire qu'on les segmente en deux. On a deux usages majeurs au bureau. Soit on fait un peu la même chose que ce qu'on pourrait faire au bureau, à la maison, pardon, et on a besoin de se concentrer, d'être au calme, etc. Et là, on a l'impression qu'il faut développer des bureaux un peu style coworking qu'on voit aujourd'hui, où on peut s'isoler dans une pièce ou dans une bulle pour pouvoir faire une visio, pouvoir se concentrer, etc. Ça, c'est une première typologie de bureau. Et on a envie de dire, développons-la près des zones d'habitation. Et ça, c'est très intéressant pour nous, puisque jusqu'à présent, il y avait des zones de bureaux clairement identifiées, comme la défense, etc. Mais les bureaux dans les zones d'habitation, c'était quelque chose qui n'existait pas. Or, aujourd'hui, les gens apprécient le télétravail, pas full-time, mais en part-time, on va dire. Mais il faut aussi que ce soit près de chez eux. Et ça, c'est relativement nouveau, parce que tout le monde s'est aperçu que le télétravail gommait le trajet domicile-travail, qui finalement est une perte de temps. La deuxième typologie de bureau, finalement, qu'on va apparaître, c'est un bureau que nous, on qualifierait d'augmenté. C'est-à-dire qu'on y a, finalement, tout ce qu'on n'a pas chez soi. Des bureaux très agréables, des grandes hauteurs sous plafond, des murs végétaux, des terrasses, des balcons, des endroits où on peut faire ce que l'on ne peut pas faire chez soi, se réunir à plusieurs, discuter. Finalement, tout ce qu'on a besoin de faire en travail collaboratif, c'est cette partie du travail où se génère l'innovation, la créativité, etc.
Vous me disiez en préparant cette émission que maintenant on fait des bureaux où il y a des territoires d'équipe, c'est-à-dire vous allez rapprocher des gens qui sont censés travailler. Alors on va vous dire avant, monsieur machin, Martin est censé supposer avec monsieur Dubon. Donc même ça, c'est formalisé.
Bah, dans une société comme la nôtre, ou comme dans beaucoup
beaucoup de sociétés. Vous avez des gens chez nous, par exemple, à la promotion, d'autres à la construction, d'autres à la comptabilité, d'autres juridiques, etc. Donc c'est sûr que ces gens-là, quand on conçoit les bureaux, on va les disposer par territoire d'équipe, puisque c'est des gens qui ont plus d'interactions entre eux qu'avec les RH, ou etc. Vous avez toujours des services très spécifiques, comme les RH, où on a besoin de s'isoler, on a besoin d'avoir des bulles d'isolation, enfin, ou des bureaux individuels, parce que...
La confidentialité,
vous voulez dire ? Pareil pour un avocat, pareil pour des fonctions comme ça. Et donc, on essaie de réunir les gens. Alors, en open space, pourquoi en open space ? Parce que finalement, télétravail implique flex office, puisque quand vous êtes en télétravail la moitié du temps, finalement, vous n'avez pas de bureau. C'est impossible à concevoir. On ne va pas concevoir de bureau pour tout le monde alors que les gens sont là que 50% du temps. Donc ça veut dire qu'on n'a plus de bureau, ça veut dire qu'on se pose dans les bureaux à l'endroit qui est le mieux adapté à ce qu'on vient y faire. Donc si vous faites une réunion, vous allez dans une salle de réunion. Si vous faites une visio, vous allez dans une salle pour isoler. Si vous venez juste lire vos mails, vous vous mettez au milieu de l'open space et vous ne dérangez personne.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Les Français s'endettent plus longtemps pour obtenir leur crédit immobilier. Durée moyenne des crédits immobiliers en hausse, taux de crédit immobilier qui remonte. Les emprunteurs doivent de plus en plus emprunter sur de plus longues périodes pour obtenir un accord de prêt immobilier. Une tendance qui pourrait s'infléchir en début d'année. Une chronique de Fabrice Coustet.
Si vous êtes sur le point d'investir et que vous faites en ce moment la tournée des banques et des courtiers, vous avez sans doute été mis en garde. Les banques exigent de plus en plus une épargne personnelle plus importante et un montant d'apport élevé. Pourquoi ? Tout simplement parce que le banquier a besoin de sécurité pour accorder un prêt. En parallèle, les acheteurs doivent s'endetter sur une période plus importante pour devenir propriétaire d'un bien. Fin 2021, les crédits immobiliers accordés durent 20 ans. En moyenne, c'est 7 mois de plus qu'en novembre 2020. Les crédits les plus courts de 15 ans se font rares, ils correspondent à moins de 15% des dossiers traités par les banques aujourd'hui. En revanche, 60% des crédits immobiliers s'étendent entre 20 et 25 ans, c'est un nouveau record établi. Cette stratégie d'allongement de la durée de l'emprunt, qui renchérit mécaniquement le coût total du crédit, n'est pas toujours faite de gaieté de cœur, mais c'est parfois le seul moyen, en empruntant sur des durées plus longues, de diminuer ses mensualités et donc de moins impacter sa capacité d'emprunt. Grâce à cette méthode, les emprunteurs ne dépassent pas les 33% d'endettement tolérés par le Haut Conseil de stabilité financière. Reste que les taux, malgré une légère augmentation en fin d'année, plus 0,05 points, restent à des niveaux planchers, 1% pour une durée d'emprunt de 15 ans, 1,15% pour 20 ans, 1,40% pour une durée d'emprunt de 25 ans. En ce début d'année 2022, ces taux pourraient à nouveau se détendre, les banques regorgent de liquidités et ont des objectifs encore plus ambitieux pour le crédit qu'en 2021. En effet, le taux de défaut restant faible, c'est un placement rémunérateur qui leur permet en outre d'attirer de nouveaux clients. Enfin, bonne nouvelle pour les emprunteurs, la compétitivité entre les banques devrait également stabiliser, voire faire baisser les taux et permettre de mieux négocier, à condition, on le répète, d'avoir un dossier en béton.
Le Mac de l'Immo, la start-up Immo, en partenariat avec Bien Ici, Jean-Michel Royot.
Le Mac de l'Immo se poursuit et comme tous les vendredis matins, eh bien nous allons découvrir une start-up, la start-up Immo de la semaine. C'est évidemment en compagnie de Jean-Michel Royot.
Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle start-up et j'accueille pour cela Stéphane Darcel. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour à vous.
Comment allez-vous ?
Très bien, je vais très très bien, merci de m'accueillir sur votre antenne.
Bon, super, écoutez, alors Stéphane Darcel, c'est un des fondateurs et CEO d'une belle start-up qui s'appelle Move and Rent. Et qui va intervenir d'une manière très agile. Stéphane va nous expliquer ça. Mais avant tout, quelle est la promesse de votre belle start-up, Stéphane ?
Alors Jean-Michel, la promesse de notre start-up, c'est pour tous les professionnels de l'immobilier qui ont besoin de mobilier à un moment dans leur business, c'est notre capacité à livrer partout en France du meuble neuf, livré, monté, installé et repris à la fin de contrat court entre 3 jours et 1 an pour être remis ensuite en deuxième vie, en économie circulaire, c'est l'ADN de notre société.
D'accord, alors c'est effectivement très, très intéressant d'entendre ça, mais on va évidemment vous en demander un peu plus, donc c'est dans les bonnes pratiques de la maison Radio Immo. On va vous donner une minute, hein, pas plus, hein, Stéphane, une minute pour en savoir plus. On voudrait savoir depuis quand la start-up existe, comment ça marche, c'est quoi le type de vos clients. Voilà, tout ce que vous avez envie de nous apprendre sur votre belle start-up. Allez, c'est à vous.
Allez, merci, c'est parti. Eh bien, MoveNRent, ça a démarré en 2012 et ça a réellement explosé à partir de 2017-2018. Aujourd'hui, MoveNRent, c'est avec nos partenaires immobiliers, sont trois acteurs principaux, les promoteurs, les bailleurs sociaux, les gestionnaires locatifs. Les promoteurs pour les bureaux d'accueil, pré-livraison et les appartements témoins. Donc pendant 3 mois, quand vous avez besoin de meubles, plutôt que de les acheter, vous passez par nous, on vous les loue, on vous les installe, on vous meuble les apparts et on récupère après tout le mobilier pour une deuxième vie. Vous avez évidemment les bailleurs sociaux pour tout ce qui est sinistre, logement de courtoisie, pardon, gros travaux qui ont évidemment des besoins de mobilier. Et pareil, avec ce service et cette facilité, cette agilité de nous commander du mobilier qui est en 5 jours partout en France, livré, installé, repris par la suite et à qui on donne une deuxième vie. Puis vous avez les gestionnaires locatifs où on a une petite spécificité. Ça leur permet, notre service leur permet de proposer à leurs clients bailleurs de passer d'appartements vides à appartements meublés selon la loi Allure et avec les spécificités de la loi Allure.
Bravo, quel sprint, Stéphane. Vous avez réussi à nous en dire
le
maximum. C'est terrible cette minute, hein, mais c'est la faute à Théo, notre super technicien là, qui traumatise tous les jeunes start-upers. Bravo Stéphane, en hein, une minute, on y voit beaucoup plus clair. Alors donc, effectivement, 3 types de clients, hein, on a retenu à la fois les promoteurs, les bailleurs HLM et les gestionnaires de biens immobiliers, avec chacun sa problématique et quelque part les solutions face à ça que vous apportez. Et je retiens qu'en 5 jours, vous êtes en capacité d'intervenir sur toute la France. Vous intervenez aussi sur les Pays-Bas ? C'est ce que j'ai cru comprendre en préparant l'émission.
Oui, absolument. On est sur les Pays-Bas aussi depuis le début d'année 2021. Nous avons des bureaux à Amsterdam. Et alors, une chose intéressante, puisque vous en parliez sur les bailleurs sociaux, les Pays-Bas, c'est le deuxième pays en Europe où il y a le plus de logements sociaux et où il y a une réelle demande aussi sur les sur le service, sur ce qu'on appelle en anglais le furniture as a service, c'est-à-dire l'utilisation de meubles comme ça en économie de l'usage. Je ne vais pas acheter, je vais louer, je vais prendre pendant 3 jours, 4 jours parce que j'ai des besoins spécifiques. Et c'est un marché qui est très très porteur.
Et c'est des besoins sur les bailleurs des Pays-Bas. C'est similaire. Les besoins sont similaires aux bailleurs français. Ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, c'est-à-dire dans le cas de sinistre ou dans le cas de logements loués temporairement qu'il faut meubler.
Oui, aux Pays-Bas, spécifiquement aux Pays-Bas, il y a une grosse problématique sur les travaux lourds liés aux nouvelles conditions énergétiques des bâtiments. Et alors là, à chaque fois que vous avez besoin de refaire un bâtiment, on va l'appeler selon la COP21, vous êtes obligé de sortir les locataires. C'est un stress pour ça. Donc, ils font appel à nous pour les mettre dans des résidences qui sont vides, avec des appartements vides, et nous, on meuble derrière le temps de ces travaux. Et là, en ce moment, ils sont dans de gros travaux liés à ça, et donc il y a une grosse demande et on tient notre épingle du jeu, effectivement.
Ok, bravo, c'est très intéressant. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns de vos clients? Qui vous fait confiance? Je suis sûr que vous avez des belles rencontres à nous proposer là.
Oui, absolument. Sur les promoteurs immobiliers, on travaille avec Nexity, avec Le Mathieu Barre, La Motte, Pichet, Cogedim, Gessina par exemple. Vous avez chez les bailleurs sociaux, on a de très belles choses en cours et de beaux partenariats avec Séquence, 3F, Mille et Une Vies aussi. Et puis vous avez aussi sur les gestionnaires locatifs, Auralia, Nexity Lamy, le cabinet Thierry sur Nantes aussi, par exemple, il y en a beaucoup d'autres, hein, je vais donner les grandes marques là.
Oui, non, c'est déjà très intéressant, c'est éclairant. Effectivement, on peut voir que vous avez des belles signatures sur chacun de vos segments et souvent les leaders. Bravo, bravo Stéphane. Comment on fait pour vous contacter ?
Ah bah, écoutez, directement, bah, évidemment, vous allez voir ce que l'on fait d'ailleurs sur notre site. C'est assez intéressant parce qu'on a un site pro justement qui détaille toutes nos possibilités, nos services et qui répond en général à vos besoins et vos problématiques. Donc, c'est moveandrent.com et la rubrique pro. Le site pro, et puis pour nous contacter, bien c'est contact@moveandrent.com. Puis si jamais vous avez des choses à faire aux Pays-Bas, c'est moveandrent.nl pour rentrer en contact avec nos équipes aux Pays-Bas.
Ils sont basés où alors du coup, à Amsterdam?
Oui, on a des bureaux à Amsterdam et on fait tous les Pays-Bas, ouais.
D'accord. D'accord, parfait. De toute façon, on reprendra tous ces éléments et toutes les informations que vous venez de nous donner dans le post qu'on publiera après l'émission. Merci Stéphane. Allez, une dernière question. Après les Pays-Bas, c'est quelle zone géographique la prochaine?
La prochaine, c'est en 2022, donc sur le premier semestre, on fait la Belgique, comme ça on fait le lien, hein, oui. on termine comme ça. Et puis après, fin 2022 et 2023, donc c'est dans les tuyaux, mais il y a quand même de grandes chances qu'un ou deux pays scandinaves nous voient arriver avec la même offre. Ouais.
Donc merci Stéphane, au nom de Radio Immo, je vous félicite, on va suivre de très près vos succès donc européens maintenant, et puis évidemment en France où vous avez encore des territoires de conquête, vous m'avez dit ça, hein. Et au plaisir de vous accueillir très prochainement dans Startup Immo pour vos futurs succès. J'en profite pour remercier notre partenaire bien ici qui nous accompagne dans cette petite émission. Merci Stéphane, à très bientôt.
Merci Jean-Michel, merci à vous. Bonne journée.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
De retour dans le studio du Mac de l'Immo, et quelques minutes avant 8h, et bien comme c'est la tradition, nous allons avec Fabienne qui est toujours à mes côtés.
Rebonjour Johanna, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent.
Et ça fait plaisir de bon matin d'accueillir notre grand témoin du jour, et aujourd'hui nous sommes ravis d'accueillir le président de sa ville, ce que vous connaissez forcément. Bonjour Boris Capel.
Bonjour, enchanté.
Ravi de vous recevoir ce matin. Alors, on vous a fait lever un petit peu tôt pour ce Mac de l'Immo. Vous avez l'habitude, vous êtes un lève-tôt?
Absolument.
Quelle heure environ, vous pouvez nous dire?
À peu près 6h du matin.
Oh, ça va. C'est tout à fait dans les clous du Mac de l'Immo, c'est parfait. On n'a pas dérangé vos habitudes, on est ravis de le savoir. Merci en tout cas d'avoir accepté de jouer le jeu du Mac de l'Immo. On est ravis d'apprendre à connaître un peu mieux sa ville et puis d'apprendre un peu mieux à vous connaître également. Vous connaissez les règles, vous les avez acceptées. On écoutera votre musique, votre programmation musicale pendant une heure. On écoutera également les témoignages de vos proches, de vos collègues, de votre famille. Tout ça, c'est à venir jusqu'à 9h. Fabienne, on commence par le premier titre musical peut-être ?
Effectivement, c'est Ave Maria par Sumi Jo. Et vous allez voir, c'est très beau. J'ai testé avant vous. Pourquoi ce choix d'ailleurs, Boris Capel ?
Parce que j'adore la musique classique et que la voix de Sumi Jo est absolument pénétrante. Et que il suffit d'écouter pour comprendre pourquoi certains sons sont plus forts que d'autres.
Eh bien, on l'écoute juste après le Flash Info, et puis vers 8h02, 8h03, on se retrouve pour la deuxième partie du Mac de l'Immo avec notre grand témoin du jour, Boris Capel, le président de sa ville. Ça tout de suite.
Oh,
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System,